voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Philippe Perennes est professeur à l'école Steiner-Waldorf de Colmar et intervenant dans des formations de sociothérapeute, de biodynamiste et d'animateur nature. Philippe est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Rencontre avec les 12 sens », qui rassemble le fruit de 20 années d'expérience et de réflexion. Dans cette deuxième émission « La voix du Kaizen », Philippe partage avec nous sa vision de la pédagogie Steiner, qui met le développement artistique de l'enfant au cœur de son développement humain.
Qu'est-ce qu'on entend par « éducation artistique de l'enfant » ? On entend par « éducation artistique » quelque chose qui... est toujours sur de la corde raide. C'est-à-dire que si vous récitez une leçon que vous avez apprise, il n'y a pas de risque. On récite, on l'a appris, allez hop, après le paragraphe A vient le paragraphe B. Quand vous êtes dans le domaine artistique, c'est par excellence un domaine de créativité. On est bien d'accord. Il n'y a pas d'activité artistique qui ne soit pas dans la créativité. Si on ne crée pas, on n'est pas. Et donc, qui dit travail artistique dit corde raide, c'est-à-dire quelque chose qui où il va falloir créer dans l'instant avec les enfants quelque chose qui n'existe pas encore. Donc vous voyez là autour de nous, là on voit pas à la radio, c'est dommage, mais il y a des peintures qui sont là. Vous voyez, il y a 24 enfants dans cette classe, il y a 24 peintures qui sont différentes. Ce que ça allait donner, moi je ne le savais pas avant de faire les peintures. Je prépare le travail, j'installe, j'essaye avec les enfants d'installer la bonne ambiance, c'est-à-dire une ambiance d'écoute des couleurs. Donc il faut vraiment les écouter, pas simplement les regarder, mais écouter qu'est-ce qu'elles ont à dire. Et donc les enfants créent individuellement, c'est le propre des arts plastiques. Donc tout ce qui est dessin, peinture, on est plus tout seul avec sa... La rencontre avec soi-même se fait comme ça, face à sa feuille, face à soi-même. Et puis on a les domaines musicaux, le chant, la chorale, etc. Où là, c'est avec les autres qu'on se rencontre soi-même. Quand on chante à quatre voix, oui, on va se rencontrer, mais parce qu'il y a les autres qui sont là. Et donc il y a aussi une dimension sociale dans le travail artistique. Mais ça passe de l'extérieur vers l'intérieur... par une activité qui est une activité, je dirais, des membres. Quand ils font de l'eurythmie, dont on pourra parler, ou quand ils font de la gymnastique, ou quand ils font des jeux aussi, on essaye de faire de rester dans ce domaine-là, c'est par les jambes, c'est par les pieds que ça se passe. Et donc cette activité-là, vous voyez, qui est développée de la première, même du jardin d'enfants, on peut dire jusqu'à la 12e classe, jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, c'est une activité qui passe par... l'acquisition de facultés, plus que de connaissances dans un premier temps, de savoir-faire. En faisant travailler ses doigts, il va développer la faculté de travailler, par exemple, au tricot, au crochet, au point de croix, à la couture. Donc il développe une faculté. Et cette faculté, bien entendu, les professeurs de travaux manuels, de rythmie, de gymnastique, de danse, etc., vont agir pour qu'elle reste sur cette corde raide de la créativité. Sur ce truc où tu peux toujours tomber à droite ou à gauche. Quand on fait un tricot, on laisse tomber des mailles au début. Il va falloir les rattraper, ces mailles. Quand on fait du point de croix, les couleurs peuvent ne pas être bonnes, comme ça. Donc il va falloir reprendre, il va falloir défaire, il va falloir recommencer. La création artistique, ça demande à ce qu'on ait le courage de se mettre et de se remettre et de se remettre au travail, chaque jour, au quotidien, dans le boulot, de manière à ce que le savoir-faire, il naisse peu à peu de la répétition dans la création. Et donc ces peintures-là, elles ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas 6 années de travail auparavant dedans, voyez. Donc... pour revenir à cette première question que vous avez posée, donc il s'agit d'arriver à ressentir que l'enfant s'approche de lui d'une certaine manière et que par le travail sur la création artistique au travers des mains, des pieds et du corps, on développe des facultés qui, peu à peu, font que l'enfant, quelque part, intègre sa corporéité, vient la réveiller, et là, on a quelque chose de foudroyant qui arrive. Aux alentours des 12 ans, c'est particulièrement fort, c'est le réveil des facultés cognitives. Donc, ce qui vient de l'extérieur, ça agit en l'enfant, et il y a quelque chose qui vient le réveiller comme ça, réveiller à l'intérieur, et je vois des enfants qui, d'un seul coup, à l'âge de 12 ans, ont un plaisir à faire de l'algèbre, par exemple. Mais c'est fou, cette histoire-là. D'où est-ce que ça vient que, avant, calculer, ça peut être difficile, mais calculer avec des lettres et des choses comme ça, eh bien non, pas du tout. Il y a quelque chose qui s'est réveillé, et il s'agit maintenant de le saisir au bon moment, et de le saisir de la bonne manière, et puis l'intérêt pour le calcul, pour l'algèbre, eh bien, il est tout à fait là. Et donc, le curieux dans l'enfant est toujours actif, comme ça. Et donc, ce curieux, évidemment, on le soigne. Le maintien du curieux, c'est un geste essentiel de la pédagogie Steiner et d'autres pédagogies aussi. Laisser à l'enfant la curiosité. C'est-à-dire que il n'y a rien de pire pour un enfant qui est curieux de tout. Ça se voit, le petit, il ouvre des yeux, il ouvre des calots comme ça en permanence parce que il se nourrit de tout son environnement comme ça. Et quand vous avez un petit de 5, 6 ans, 7 ans à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que vous posez des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Ils nous saoulent avec leurs questions. Ils n'arrêtent pas, ils peuvent poser 15 questions de suite. Le curieux est là. Le pire, c'est de le tuer en lui répondant comme ça. En lui répondant, en lui donnant des définitions comme ça. Alors, c'est quoi une plante? Alors, une plante, c'est fait avec des racines, une tige, des fleurs, etc. On lui fait une description de ce genre-là. C'est terrible pour ça. Une des choses qui tue la curiosité, c'est la réponse formelle et définitive. Tu me demandes ce que c'est que ça? Je te réponds. Ça, c'est comme ça. Point final. Et du coup, ça ne devient pas une faculté, mais une connaissance qu'on mémorise ou qu'on oublie. Il ne s'agit pas tant de déposer des connaissances que de développer des facultés. Et l'une de ces facultés qu'il faut conserver parce qu'elle est là dès la naissance, sinon l'enfant n'ouvre pas les yeux, c'est la curiosité. Comprenez? Un enfant curieux, il cherche. S'il cherche, eh ben, il va finir par trouver tout un tas de choses qui vont l'intéresser. Et donc, pour entretenir le curieux dans l'enfant, il faut développer une science dans l'éducation. C'est la science de caractériser les choses sans les définir formellement. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Si vous dites à un enfant... 2 et 2, ça fait combien? C'est terrible. C'est une question terrible. Elle est justifiée. Il faut aussi savoir des choses comme ça. Mais c'est terrible. Parce que l'enfant, il est forcé de répondre 4. Doucement. Doucement. La question, c'est 4, c'est combien? Alors là, on a de la réponse. Comme ça. 4, alors il y en a toujours un dans une classe qui va dire c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Super. Il y a un autre qui va dire non. 4, c'est 3 plus 1. C'est 2 plus 2. Puis il y a un petit finot qui va dire c'est 2 fois 2. Et il y en a un autre qui va dire c'est 5 moins 1. Et on va arriver à c'est 2 fois 5 moins 6. Ou 4, mais c'est racine de 16. Ou c'est... Enfin bref, à partir du moment où on écrit 4, vous pouvez l'écrire à un enfant de 7 ans, il va vous trouver toutes les réponses de 7 ans. Mais vous pouvez encore écrire au tableau 8 ans plus tard, 4 c'est quoi? Et là je vous souhaite bonne chance pour corriger les devoirs. Parce qu'il y a des élèves qui sont extrêmement forts à ce jeu-là et qui déploient une imagination. Et quand on est dans l'imagination, on est où? On est dans la créativité. Retour au point de départ. L'enfant crée lui-même. Il ne s'agit pas de trouver le résultat et d'être le meilleur ou le troisième. Il s'agit, à partir d'une réponse, de trouver toutes les questions qui mènent à cette réponse-là. Et là, l'enfant, il n'en finit pas d'écrire des solutions. Mais quel bonheur pour lui de pouvoir écrire tout ce qu'est 4. Tu te rends compte, 4, ce n'est pas simplement 2 et 2. C'est tout ça. Et moi, j'en ai écrit une page et mon voisin, il en a écrit une autre. Et on a écrit 24 pages comme ça de 4. Et donc, vous voyez, la curiosité, c'est quelque chose qu'il faut soigner chez l'enfant.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Je trouve qu'il ne faut pas caractériser la pédagogie Waldorf par rapport à l'éducation nationale. Parce que dans l'éducation nationale, il y a des excellents professeurs qui ont vraiment intégré tout ce que je viens de dire depuis longtemps et qui font s'exprimer leurs élèves. Et ça fait partie de leur travail au quotidien de faire ça. Donc je voudrais surtout pas donner l'impression qu'ici on fait quelque part de graduer, il y a l'éducation nationale et la pédagogie Waldorf. Je serais pas d'accord avec ça. Si les collègues de l'éducation nationale n'étaient pas là, mais avec l'école Waldorf, je me demande comment on ferait maintenant au niveau de la France. Heureusement qu'ils sont là et qu'ils travaillent. Et je pense que moi j'ai eu d'excellents professeurs dans l'éducation nationale. Tout dépend maintenant de la personne qui est devant les enfants. Et il y a des professeurs Waldorf dans l'éducation nationale aussi. Et on a des professeurs de l'éducation nationale dans la pédagogie Waldorf.
Non, mais c'est vrai que c'est la nature du professeur qui est très important, la manière dont il lui-même vibre à l'intérieur de lui.
Absolument, absolument. On a vraiment des collègues de l'éducation nationale qui sont des professeurs admirables. Il y a vraiment rien à dire. Donc voilà, bon, ça c'est une parenthèse, mais effectivement, l'enfant doit être amené à s'exprimer. Et donc ça c'est quelque chose que l'on soigne dès les premières heures de classe. Et donc on ne prend pas les enfants trop tôt non plus dans l'école. C'est-à-dire qu'on arrive à respecter quelque chose ici à Colmar, et on a encore de la chance de faire que les enfants ne viennent pas trop tôt en première classe et puissent rester à jouer au jardin d'enfants jusqu'à leur sixième année, comme ça, et ensuite passent en première classe. Mais dès la première heure de classe, on leur demande de s'exprimer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en tant que professeur ? En tant que professeur, on est des êtres qui parlons, parce que la transmission, elle est essentiellement orale. Oui, on écrit, on dessine, etc., mais nous parlons. Toute la journée, nous parlons à nos enfants. Et si on ne fait que parler, comme je suis en train de le faire comme ça, mais on va endormir tout le monde, il n'y en a pas pour une demi-heure, et ça va dormir dans la classe où ils vont parler d'autres choses. Et donc, l'appel, quand on a parlé, c'est de faire en sorte que les enfants, eux aussi, puissent s'exprimer. Chaque parole forme l'enfant. Et alors, c'est extrêmement intéressant de voir que nous avons à développer une certaine culture de la parole. Je ne dis pas que nous parlons sans faute, moi en tous les cas certainement pas, mais on essaye de parler avec les enfants d'une manière qui soit correcte, qui soit juste, parce que ça c'est formateur, et quand ils répètent, la première chose qu'ils font quand ils sont petits, c'est de répéter nos propres paroles. Et donc ils s'expriment, bien entendu. Et peu à peu, en grandissant, ils vont trouver leurs mots, leurs expressions, leur style, etc. Et c'est là qu'il y a un travail particulier d'accompagnement à faire avec eux au fil des années, pour qu'évidemment les enfants n'aient pas le style et la parole du professeur. Mais ça, je peux vous assurer que ça n'existe pas, puisque dans le développement de l'enfant, il y a des phases d'opposition qui sont absolument salutaires, qui le font se distinguer de leurs parents, de leurs professeurs, etc., pour trouver leur propre voie.
Est-ce qu'on peut parler un peu de la méthodologie des outils pédagogiques utilisés à Waldorf ?
C'est-à-dire,
dans une classe, quels vont être les outils utilisés par le professeur ? Donc là, je vois un tableau, je vois des peintures au mur. Comment va se passer une journée type dans une classe Waldorf ?
Ouais. Je prends du point de vue de l'emploi du temps, parce que la succession des matières, c'est aussi un outil. Comme ça. Et donc, là où on pourrait, à l'intérieur d'une salle de classe, faire varier les expériences, on fait varier les salles de classe et on fait varier les professeurs. Donc, vous l'avez compris, quand l'enfant vient en première classe, donc de la première à la huitième, de 7 à 14 ans, grosso modo, quand il arrive, il travaille avec un professeur de classe, un homme ou une femme, qui va les suivre pendant 8 ans. Donc, cette continuité, elle est vraiment créatrice de liens qui permettent pour nous de respecter les rythmes propres de chaque enfant, de ne pas forcer quelque chose. Ça, c'est important. Mais le professeur de classe, heureusement, il n'est pas tout seul là-dedans. Actuellement, moi, je suis en sixième classe, j'ai des enfants de 12 ans, nous sommes 10 à travailler autour de la classe. Vous imaginez, 10 professeurs qui travaillent autour de la classe. Ça demande déjà un travail ensemble, Donc une cohérence des professeurs, un travail avec les parents bien entendu, et un travail avec tous les autres collègues pour essayer d'harmoniser tout ça. Et donc ces professeurs intervenants dans les classes, ce sont quelque part des spécialistes dans leur matière. Vous voyez, je parle couramment l'allemand, mais je n'enseigne pas l'allemand. C'est un métier que d'enseigner les langues. Et par exemple, l'eurythmie, c'est quelque chose qui est aussi enseigné par une eurythmiste, quelqu'un qui a fait des études, qui connaît vraiment cette matière à fond.
L'eurythmie, on va le définir, parce que ce n'est pas un terme qui est connu. Qu'est-ce que c'est que l'eurythmie ?
L'eurythmie, c'est un art du mouvement qui a été fondé par Rudolf Steiner et qui est vraiment spécifique, caractéristique dans les écoles Waldorf. Vous ne trouvez pas d'enseignement de l'eurythmie dans d'autres écoles que dans les écoles Waldorf. Donc c'est quelque chose qui, quelque part, ça nous appartient. Et c'est un art du mouvement. Alors, pour le dire par rapport à ce que j'ai dit auparavant, qui permet de mettre l'enfant qui est à l'intérieur en relation avec celui qui est à l'extérieur. Peut-être on y revient plus tard. Parce que je reviens à mon emploi du temps. J'essaie juste pour bien comprendre comment les choses se passent. Donc, le matin, les enfants arrivent et pendant 2 heures, ils ont le cours principal avec ce professeur qui cherche à les suivre pendant toutes ces années et à travailler avec eux et qui les connaît aussi bien que eux le connaissent. Ça, c'est dans les deux sens. Et parfois même, les élèves connaissent mieux le professeur que le professeur les élèves, parce que les élèves, on l'a vu, c'est des points d'interrogation, alors que le prof, c'est déjà moins un point d'interrogation. Il y a déjà quelque chose qui est déjà un peu plus réalisé. Donc, niveau connaissance, je ne sais pas qui a la plus grande connaissance de l'autre, comme ça. Et donc, pendant 2 heures, il y a ce cours principal où le professeur amène toutes les matières qu'il peut amener sans être forcément un spécialiste, mais ça demande quand même beaucoup de travail, d'investissement. Moi, j'ai eu la chance de faire des études de chimie, de physique, de mathématiques dans les jardins, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé pour faire ce cours, mais je vois des collègues qui ont plus une culture littéraire. Quand ils arrivent dans les cours de physique-chimie, ils ont énormément de travail. Mais c'est pas mal non plus que de se donner la peine de découvrir et de travailler une matière qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, pour arriver à apporter quelque chose d'essentiel. Moi, je sais qu'en tant que chimiste, c'est la matière la plus difficile que j'ai à enseigner de toutes, parce que j'ai dû absolument tout refondre et tout reprendre ce que je croyais connaître pour poser la chimie sur une autre base. Et donc, pendant 2 heures, les enfants ont ce cours. Et ensuite, il y a les cours de matière qui arrivent. Et là, ce sont des cours qui, par exemple, sculpture sur bois. Les élèves aujourd'hui avec sculpture sur bois. Donc là, ils sont avec un professeur qui est notre professeur de menuiserie dans les grandes classes, de marqueterie, qui fait la sculpture chez les petits. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît et qui maîtrise parfaitement le sujet du bois, les essences du bois, etc. Et qui va leur donner des exercices à faire en fonction de leur âge. La sculpture sur bois commence en 6e classe, c'est-à-dire quand ils ont 12 ans, et se poursuit encore pendant quelques années. Et donc, il les amène à faire des expériences avec le bois qui sont extrêmement proches de ce qu'ils vivent dans leur développement. C'est pas deux choses séparées, c'est la même chose. Il y a un moment, en bois, tu as besoin de saisir la forme par l'extérieur. Il y a un moment, en bois, tu as besoin d'animer la forme par l'intérieur, comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ils avaient un cours de rythmie. Même chose. Et là, dans le cours de rythmie, attention, on bascule dans le domaine musical. Et dès qu'on bascule dans le domaine musical, on sort de l'individuel, pour ainsi dire, pour rentrer dans le collectif, c'est-à-dire dans le social. Et dans un cours de rythmie, donc les mouvements qui sont faits ne sont pas que des mouvements qui relient l'être à lui-même, d'une certaine manière, à son essence profonde, mais qui le relient aux autres. Et là, c'est une difficulté supplémentaire. Et donc le professeur de rythmie va devoir composer maintenant, tout comme le professeur de bois sculpte d'abord à l'extérieur, rentre ensuite à l'intérieur, le professeur de rythmie va devoir apporter certains mouvements qui vont intérioriser l'enfant et ensuite le mettre en lien avec les autres. Donc c'est encore une fois une corde raide extrêmement tendue que de pouvoir, dans ce domaine-là, faire en sorte que les enfants ne soient pas simplement des gens qui imitent, mais qui créent. Quand on regarde les travaux en bois, il n'y a pas de travaux qui sont pareils. Quand on regarde les travaux en eurythmie, il s'agit maintenant de faire que l'enfant soit créatif dans sa forme, dans ce qu'il va faire comme mouvement, comme ça. Créatif tout en respectant les consignes. Quand le professeur de bois fait un bilboquet, c'est un bilboquet. C'est pas un arbre à oiseaux, c'est un bilboquet. Et quand le professeur de rythmie fait tel ou tel mouvement, telle ou telle figure, ça doit être cette figure. Mais on peut quand même rester créatif à l'intérieur.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.